De vous présenter Marc Chibli. C'est pas la première fois que Marc est ici à notre assemblée, mais l'amitié entre Marc, moi-même et les autres membres de l'équipe qui sont allés en Haïti a augmenté depuis notre première rencontre. Marc est de Suisse, né en Suisse. Dans le coin de Bâle, donc il est suisse-allemand. Il est marié avec une femme, naturellement. Et avec cette union, 7 enfants entre 9 et 24 ans. Donc il est chez lui de temps en temps. Responsable pour le ministère des cours bibliques Emmaüs. Un ministère pas connu très bien, mais très, très efficace. Des dizaines de milliers de personnes qui sont impliquées dans ce ministère, dans ce programme. Puis hier, on a eu le privilège d'assister à la graduation d'une soixantaine qui a complété ses cours. Et c'est, ils ne sont pas faciles. Donc, c'est à cause, avec Marc, que nous sommes ici ce matin pour écouter la parole et pour comprendre un petit peu mieux le ministère que Dieu lui a donné. C'est un homme qui est dur, c'est un homme qui est fort. Je sais parce qu'il prend du sauce Tabasco sur ses yeux brûlés le matin. Brûlés aussi, des fois. Mais du sauce, yes. Marc, que le Seigneur te bénisse.
Je vais apporter une petite correction. Je ne suis pas né dans le coin de Bâle, mais dans le coin de Zurich. Mais il n'y a que 100 kilomètres entre Bâle et Zurich, et quand un Canadien parle d'un coin, apparemment, ça fait un rayon de 100 kilomètres autour. Je veux juste vérifier si au niveau de la technique, ça marche. Oui, vous vous souvenez peut-être, j'étais parmi vous il y a une année environ, et je vous avais parlé, sans grande attente, d'un projet de construction de maison en bois pour les sinistrés, du tremblement de terre qui a eu lieu à Port-au-Prince le 12 janvier 2010. Et suite à ma visite l'année passée, j'ai eu un écho très engagé de la part de plusieurs frères ici dans cette assemblée, menée par le frère Bill Francis. Et effectivement, il y a eu une équipe de 7 frères qui est arrivée à Port-au-Prince en décembre 2010. Et c'était une très grande joie pour moi de faire cette expérience de collaboration. L'équipe franco-canadienne parlait le français et un peu l'anglais. Et l'équipe allemande qui était allée avec moi, qui était venue avec moi, parlait l'allemand et un peu l'anglais. Mais ensemble, ils ont très bien collaboré. En anglais, on a bien pu s'échanger les idées. Et le grand avantage de l'équipe francophone, canadienne, francophone, était que des ouvriers haïtiens de langue maternelle française ont pu très bien communiquer avec eux, si bien que les frères de Trois-Rivières ont pu expliquer aux frères haïtiens comment construire ces maisons, parce que sur les 16 maisons qu'on a reçues dans le conteneur, on a pu finir que 9. Donc 9 sur 16, il en restait 7. Et les haïtiens qui ont été très bien formés par vous ont pu finir de construire les maisons qui sont restées. Ça, c'était en fait la plus grande réussite si on avait été là-bas en construisant 13 maisons, mais en laissant les 3 autres sans former quelqu'un pour les construire. Eh bien, ça n'aurait pas été si bien réussi. Merci beaucoup pour tout votre engagement, toute votre assemblée à ces données, à peut-être soutenir financièrement aussi, à prier, nous accompagner en pensée. Merci beaucoup. Et Julien m'avait fait la promesse de me faire manger l'orignal si jamais je viendrais le voir cette année. Alors, je comprends pourquoi tu n'as pas pu venir à Montréal hier, tu as encore dû aller à la chasse à l'orignal. Est-ce que tu en as attrapé un pour le dîner aujourd'hui?
Oui, je l'ai coupé ce matin.
OK, donc il sera vraiment tout frais. Alors juste quelques photos de souvenirs. Vous voyez ce que je vois là sur le petit écran. Juste quelques impressions, sans commentaire, on ne veut pas s'attarder. D'ailleurs, vous avez eu ces images après le retour des frères au mois de décembre, d'après ce qu'on m'a raconté. Donc c'est juste un petit souvenir visuel pour vous rappeler la raison pour laquelle je suis là et d'où on se connaît. Voilà les personnes et les têtes connues. Ça c'est donc, on le voit peut-être pas de devant, ça c'est Benjamin, hein. Il est aussi là? Il n'est pas là. Alors, oui, je l'ai vu hier. Et voilà la première famille qui avait reçu une maison. Jean-Just Exantus avec sa femme et ses trois enfants. Voilà, et c'était la photo d'adieu de l'équipe canadienne. C'était la dernière maison qu'ils ont pu construire avant de reprendre l'avion vers le nord. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que je peux éteindre l'image et la rallumer quand je veux? Ok, je fais signe, merci beaucoup, c'est parfait. Bon, je vous apporte des salutations très cordiales de ma femme Véronique. Elle est restée dans son royaume, nos enfants entre 9 et 24 ans, donc 4 sur 7 sont encore à la maison. Elle voit sa responsabilité essentiellement à la maison, mais... elle est une femme très forte et très fidèle et je peux partir de la maison en sachant que la famille est entre de bonnes mains. Quoi que ce soit lourd pour moi de quitter la maison et je me console par la famille spirituelle que je rencontre en Haïti, en Afrique ou justement parmi vous. Je serai en route pendant 12 jours depuis Montréal, donc en passant par Trois-Rivières. Dans le courant de la semaine, je vais continuer à Jonquière pour rencontrer le frère Don Cox. Il voyage souvent en République dominicaine pour évangéliser avec une équipe de jeunes, d'après ce que j'ai suivi. Et il a découvert qu'il y a à peu près 1 million d'Haïtiens qui sont en République dominicaine pour chercher du travail. Et je veux aller le voir pour qu'on discute comment on pourrait éventuellement étendre le ministère des cours bibliques Emmaüs depuis Haïti envers la République dominicaine pour aussi atteindre les Haïtiens qui résident en République dominicaine. Et depuis Jonquière, je vais revenir lundi prochain pour reprendre l'avion mardi depuis Montréal à Francfort. Mais maintenant, nous avons 30 minutes pour la parole de Dieu et je veux partager un texte qui n'est peut-être pas très fréquent, pas fréquemment lu le dimanche matin. C'est un texte apparemment négatif, en tout cas pour sa première partie, mais la deuxième partie est d'autant plus positive et encourageante. Et vous allez voir le rapport entre ce que nous allons lire et la société haïtienne, son origine et les problèmes à laquelle elle est confrontée sur le plan spirituel. C'est dans Deutéronome 18, les versets 9 à 19, Deutéronome 18, versets 9 à 19, interdiction formelle et absolue de toute pratique d'occultisme, de spiritisme. On peut aussi dire l'interdiction de la religion animiste. J'en dirai encore quelque chose. Nous lirons donc Deutéronome 18 à partir du verset 9. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. On pourrait aussi dire qui offre en sacrifice son fils ou sa fille par le feu à des démons. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits des morts, ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Toi, tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins. Mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Et maintenant, la couleur change de noir foncé en blanc clair éclatant. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais « Que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. » L'Éternel me dit alors, après cette scène où le peuple était en frayeur d'entendre la voix de l'Éternel à l'Horeb, où Dieu leur a donné la loi, l'Éternel me dit « Ce qu'ils ont dit, eh bien, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi Moïse. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles que ce prophète dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. » Jusque-là, la parole de Dieu. Tout d'abord, je dois vous demander pardon de ne pas pouvoir entrer dans le détail de cette longue liste de pratiques occultes qui est énumérée dans ce passage. On voit l'embarras des traducteurs quand on compare les traductions de la Bible. Nous avons la chance d'avoir plusieurs traductions françaises de la parole de Dieu. Et quand vous regardez ce passage-là, Deutéronome 18, les versets 9 à 12, on voit que les traducteurs ne savent pas tellement comment traduire. Ils ne sont souvent pas unanimes sur telle ou telle expression ou pratique. Et cela m'a plutôt réjoui de voir qu'il y a une certaine ignorance. En effet, la parole de Dieu nous dit de ne pas s'occuper de l'occultisme, des choses des ténèbres. Éphésiens 5, verset 10, dit tout simplement « Ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. » Excusez-moi, Éphésiens 5, verset 12. Il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Ça m'a toujours impressionné que les frères africains, comme les frères haïtiens, après une conversion radicale et claire au Seigneur Jésus-Christ, sa seigneurie, ils n'aiment pas parler des pratiques occultes qui se pratiquent dans leur pays. Ils n'aiment pas raconter les histoires qui nourrirait notre curiosité et qu'on aimerait bien écouter pour avoir quelque chose à raconter en rentrant à la maison. On peut en trouver des milliers de ces histoires-là, mais en tout cas les frères spirituels que je connais, ils n'aiment pas s'étendre là-dessus. Il est même honteux de dire ce qui se pratique en cachette dans les ténèbres, dans ces pratiques-là. Donc, quel que soit le rôle exact et la pratique exacte de l'enchanteur, du devin, de l'astrologue, de celui qui invoque les esprits des morts, etc., ce sont toutes des pratiques que Dieu interdit formellement. Il est extrêmement strict, n'est-ce pas? Et ce n'est pas le seul passage dans l'Ancien Testament. Cette interdiction des pratiques occultes, elle traverse tout l'Ancien Testament. Et surtout, nous avons d'innombrables exemples qui nous avertissent que lorsqu'une personne, notamment un roi, une personne qui a de la puissance politique, pratique ces choses, ça amène une malédiction sur la personne elle-même et sur tout son entourage. Je rappelle juste deux noms dans l'histoire des rois de Juda, le roi Akaz et le roi Manassé, les deux allait justement jusqu'à cette abomination totale qui est mentionnée en première dans ce passage que nous avons lu. Ils ont sacrifié leurs propres fils et leurs propres filles aux démons en les brûlant par le feu. Pratique qui me rappelle d'ailleurs une chose qui est très fréquente dans nos sociétés occidentales aussi, c'est l'avortement. On pense non pas d'amadouer un démon quelconque ou un esprit, mais on pense quand même acquérir à certains avantages s'acquérir de certains avantages matériels en se débarrassant d'un enfant qui nous embêterait parce qu'il coûterait trop cher, il nous fatiguerait trop, il userait trop nos nerfs ou que sais-je. On le fait partir, on le tue et voilà en quelque sorte le même but que les personnes avaient à l'époque. On voulait se débarrasser d'un enfant pour être plus à l'aise, pour avoir des avantages à travers cela. Pourquoi Dieu est si formel dans l'interdiction de ces choses? Tout premièrement, personne ne doit passer dans le contact avec le monde invisible par un autre chemin que par Jésus-Christ lui-même. Nous le savons dans le Nouveau Testament, c'est enseigné très clairement. Mais imaginons-nous quelqu'un qui réalise qu'il y a un monde invisible, qui réalise qu'au-delà du matériel et du visible, il y a un monde qui est animé par une intelligence quelconque, par des esprits, par des démons. Et il devient curieux et il se demande, mais comment est-ce que je peux entrer en contact avec ce monde? Et notamment dans l'animisme, qui est la religion de tous les peuples qui sont au stade rudimentaire de leur évolution culturelle. On parle d'animisme autant chez les chamans en Sibérie comme chez les indigènes en Papouasie-Nouvelle-Guinée, loin dans l'océan Pacifique. On parle d'animisme dans les peuples africains, en Afrique de l'Ouest, on les appelle les marabouts, les prêtres. Et on parle aussi d'animisme dans le voodoo, qui est justement la religion officielle en Haïti, à côté du catholicisme et du protestantisme. Le voodoo, héritage direct des esclaves de l'Afrique de l'Ouest qui ont été déportés par l'esclavage qui s'est pratiqué du 16e jusqu'au début du 19e, même jusqu'à la fin du 19e siècle, eh bien, ils ont amené avec eux la pratique du vaudou qui est une forme d'animisme. Et ce qui caractérise l'animisme, c'est qu'on cherche à entrer en contact avec le monde invisible parce qu'on se dit, il y a des esprits, il y a des démons derrière tout ce qu'on voit. Chaque herbe, chaque pierre, chaque arbre, chaque animal, chaque phénomène naturel est dirigé et animé par le monde des esprits. C'est de là que vient l'expression animisme. On pense que tout est animé par un côté spirituel. Ce n'est pas si faux, n'est-ce pas? Mais ce qui est faux, c'est premièrement de vouloir entrer en contact avec ce monde des esprits de façon directe, en cherchant à contacter ces esprits. Et ce qui est faux, deuxièmement, c'est de rejeter les recommandations de Dieu et de chercher de l'aide et du soutien, de la protection de la part de ces esprits. Si Dieu est si formel en interdisant cela, je suis arrivé à la conclusion, il l'interdit pour notre bien, je vais y arriver tout à l'heure, mais premièrement, le principe de cette interdiction, c'est que tout ce monde animé par les esprits est géré par Satan, et c'est une tentation satanique de vouloir entrer en contact avec ces esprits pour nous détourner du contact et d'obtenir de l'aide directe de la part de Dieu. C'est donc, pour ainsi dire, de la haute trahison. La haute trahison, c'est quand face à un gouvernement, j'essaye de renverser le gouvernement et de placer un autre gouvernement. Si vous essayez de renverser le gouvernement canadien et d'y placer un gouvernement sous votre pouvoir, c'est de la haute trahison. Et si nous allons pratiquer ces pratiques occultes, c'est comme si nous allons rejeter de façon délibérée le gouvernement que Dieu a institué et de dire, nous allons faire un pacte avec Satan et nous allons choisir ce qui lui nous propose. Le but d'ailleurs de toutes ces pratiques occultes, j'ai toujours découvert et constaté en discutant avec des personnes qui pratiquaient cela ou qui l'avaient pratiqué, le but ce n'est pas de trouver une relation de confiance et d'amour. Le but c'est plutôt d'éviter les effets néfastes que ces esprits pourraient avoir sur moi, de les manipuler, de les assujettir, de les amadouer pour qu'ils fassent ce que je veux. Exemple très typique, l'exemple du fétiche. Au Burkina Faso, je connais un frère, il est aussi responsable d'un centre Emmaüs. Il avait pratiqué le fétichisme avant sa conversion et il avait trouvé un féticheur très puissant qui a pu lui confectionner un fétiche, je ne dis pas maintenant comment, un fétiche contre les accidents de la circulation. Il devait le porter attaché à sa ceinture et à travers cela, il était sûr de ne pas tomber dans un accident de la circulation. Les esprits méchants allaient s'évader et les bons esprits, s'il en existe, allaient le protéger. Problème pour lui était qu'il a quand même eu un accident de la circulation en portant le fétiche et il a survécu à cet accident. Mais dans cet accident, il y a eu un autre qui est mort et ce mort-là, il avait même deux fétiches attachés à sa ceinture et c'était exactement du même atelier de production de ce féticheur qui avait donné le fétiche à mon frère. Alors, ça l'a totalement ébranlé et ça l'a aidé à se détourner de cette fausse voie. Un autre exemple, donc qu'on ne cherche pas vraiment la communion avec un Dieu ou un esprit, comme nous cherchons la communion avec Dieu pour être heureux, rien que dans cette précieuse prise de conscience, je suis en communion avec le Dieu vrai, comme nous venons de le chanter à plusieurs reprises ce matin. Donc, l'animisme cherche à obtenir des avantages, à s'arranger, à pouvoir mieux réussir dans la vie à travers les pratiques magiques. Un autre exemple, donc, un frère nommé Fritz Nerbechet, qui est aussi responsable de corriger des cours Emmaüs en Haïti, il avait une mère qui était prêtre vaudou, prêtresse vaudou, et les clients qui venaient chez elle venaient pour obtenir toutes sortes de recommandations pour éviter des maladies, pour savoir aussi pourquoi tel ou tel événement était arrivé, pourquoi la fille est tombée malade, pourquoi le mari a eu un accident. Mais pour la plupart, les gens venaient pour demander à la prêtresse voodoo les bons chiffres de la loterie du week-end prochain. Ça serait une bonne chose, n'est-ce pas, si on pouvait trouver un prêtre voodoo qui nous dise exactement quelle sera la combinaison des chiffres pour la loterie, et je pourrais facilement devenir millionnaire. Ils n'allaient pas consulter les esprits pour chercher la communion avec les esprits, mais pour obtenir des avantages. Dieu dit, je répète le verset 12, « Quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. » Petit détail, il ne dit pas, ces choses sont abominables à mes yeux. Il va même plus loin. Il dit, quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Il y a comme une malédiction directe sur la personne qui pratique cela. La personne elle-même est en abomination à l'Éternel. C'est très fort. Il n'y a pas de jugement plus sévère. Que Dieu dise à quelqu'un, tu es en abomination à moi si tu pratiques ces choses. La haute trahison, pacte avec le diable, chercher de l'aide auprès des esprits, des démons. Et dans ce verset 12, deuxième chose, il dit que c'est à cause de cela que les peuples cananéens vont être chassés par les Israélites. Dieu, au bout de plusieurs centaines d'années, avait décidé de chasser, d'exterminer ces peuples parce que leurs pratiques occultes avait atteint un niveau inacceptable. Et encore une fois, la première et la plus abominable de ces pratiques était le fait de sacrifier leurs fils et leurs filles aux démons en les brûlant dans le feu. Dieu dit, à cause de cela, j'ai décidé dans mon gouvernement d'exterminer ces nations. Et nous serons encore étonnés de voir, quand nous serons dans l'éternité, je m'imagine que nous puissions regarder en arrière sur toute l'histoire de l'humanité et nous allons certainement beaucoup mieux comprendre pourquoi Dieu a permis, dans telle ou telle situation, des jugements horribles sur des nations entières, sur des peuples entiers qui ont disparu. Ça, c'est le côté sévère, le côté qui nous fait craindre Dieu, car si nous cherchons à résoudre nos problèmes en faisant des pactes avec le diable, en pratiquant l'occultisme, le spiritisme, eh bien, non seulement ça ne peut pas fonctionner dans la société humaine, mais il y aura une malédiction, un jugement direct de la part de Dieu. Pourquoi ça ne fonctionne pas dans la société humaine pour la développer? Je veux vous donner un exemple, si on peut juste voir l'image, la prochaine image sur la clé USB. Oui, voilà donc, excusez-moi, c'est celle-là. Il y a quelques années au Sénégal, j'ai tout d'un coup vu ce panneau que le président du Sénégal, M. Abdoulaye Wade, avait établi à plusieurs coins de la capitale, Dakar. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il veut dire comme message à son peuple? Il n'y a pas de secret. Il faut travailler, beaucoup travailler, encore travailler, toujours travailler. Voilà une belle parole d'encouragement d'un président à l'égard de son peuple. Qu'est-ce qu'il voulait dire à travers cela? Il faut bien comprendre la petite phrase au-dessus de ces quatre répétitions. Il n'y a pas de secret. N'allez pas vers le marabout, n'allez pas vers le magicien, car il ne peut pas faire prospérer votre vie à long terme. Un missionnaire en Afrique m'a dit une fois que l'animisme transporte la pensée que l'argent n'est pas a priori le fruit du travail, mais c'est une bonne opportunité. Il faut avoir de la chance. Il faut savoir manipuler les esprits. Il faut savoir s'assujettir les démons et tu auras de la chance et tu n'as plus besoin de travailler parce que tu gagneras la loterie. Ou tu auras de la chance parce que quelqu'un de ta famille qui est riche va te léguer un héritage ou que sais-je. Et ça, c'est un mensonge diabolique, n'est-ce pas? Et dans la bonne éthique protestante, nous ne saurons jamais assez remercier le Seigneur de toute la bénédiction que la réforme nous a apportée au XVIe siècle et dans les siècles à venir, dans les siècles suivants. L'éthique protestante dit « Travaille par la grâce de Dieu qui, dans sa miséricorde, te donnera la force, de développer tes dons. Prends ta vie en main avec l'aide de Dieu et Dieu bénira ton travail. » Nous avons appris à réfléchir en termes d'heures de travail. Si je vous donne $50, c'est comme si vous pensez à 5, 2, 3 heures de travail. Je ne sais pas quel est le salaire à l'heure ici. Mais nous réfléchissons en termes de travail, en termes de quantité ou d'heures de travail quand nous pensons à l'argent. Un animiste ne réfléchit pas comme ça. Il réfléchit en termes d'opportunité, de chance. Mais venons encore pour les 10 dernières minutes au côté positif. Pourquoi Dieu est si radical en interdisant ces choses? Parce que il veut nous bénir, il veut nous faire du bien. Quand il interdit quelque chose, ce n'est jamais pour nous embêter. Ce n'est jamais parce que il veut nous empêcher de vivre l'harmonie, l'abondance et la joie. Quand il interdit quelque chose, c'est pour notre bien. Et nous ne pouvons pas assez prier pour nos jeunes, pour nos enfants, nous ne pouvons pas assez le leur répéter que si nous leur interdisons quelque chose à cause de la parole de Dieu ou par la parole de Dieu, c'est pour leur bien, ce n'est pas pour leur mal. Et Satan, il réussit toujours et encore à faire comprendre aux gens, Dieu ne veut pas t'accorder telle ou telle chose parce que c'est un Dieu qui n'aime pas le plaisir et il veut t'embêter avec tes commandements inutiles et pénibles. Non. Tous les commandements de Dieu sont bons. S'il nous interdit de voler, de tuer, de commettre adultère, c'est pour notre bien. Et je pense que je n'ai pas besoin de vous raconter les résultats d'une société qui s'éloigne des commandements de Dieu, tous les fruits amers qu'elle récolte. Je suis moi-même enfant d'un couple divorcé quand j'ai eu 5 ans. Nous étions 3 frères et sœurs, mes 2 sœurs et moi. Quand j'ai eu 5 ans, mes parents ont divorcé. Et j'ai vécu moi-même simplement les fruits amers d'un couple qui n'a pas voulu respecter ce simple commandement, tu ne commettras pas adultère. Tu resteras fidèle à ton conjoint jusqu'à la fin de tes jours. Dieu n'a que de bonnes intentions, des intentions de bénédiction quand il nous donne des ordres et des commandements. Il veut notre bien. Mais il ne veut pas seulement notre bien terrestre, il ne veut pas seulement que la vie fonctionne, que nous comprenions qu'il nous a donné des dons, que nous devons travailler, prendre nos responsabilités, faire fructifier dans une attitude honnête les uns envers les autres la richesse qu'il met entre nos mains. Il veut aller beaucoup plus loin. Et c'est pourquoi, déjà dans ce texte, il jette une lumière puissante sur Jésus-Christ. Quelque part voilé, comme c'est souvent le cas dans l'Ancien Testament, il dit « L'Éternel ton Dieu, verset 15, te suscitera du milieu de toi, entre tes frères, un prophète comme moi, dit Moïse. » Un prophète, qui sera le porte-parole de la part de Dieu, non pas en passant par la déviation des démons et des esprits, mais d'une façon directe. Il te dira directement les paroles de Dieu. Et le Nouveau Testament, dans ce cas, nous facilite la chose de comprendre que ce prophète était, bien sûr, notre Seigneur Jésus-Christ. Les Juifs du temps de Jésus l'attendaient. Ça se voit spécialement grâce à deux versets dans Jean 1, 21. Jean-Baptiste reçoit cette question de la part des Juifs. Les Juifs demandèrent à Jean-Baptiste, Jean 1, 21, « Quoi donc, es-tu Élie ?» Et il dit, « Je ne le suis point. Es-tu le prophète ?» Et il répondit, « Non. » Jean-Baptiste n'était pas le prophète. Selon Malachie, Élie doit aussi apparaître avant le jour du Seigneur, mais Élie n'est pas égal au prophète dont Moïse parle. Le prophète, proprement dit, c'est Jésus-Christ lui-même, et ça les Juifs le savaient. Ils savaient que le Messie allait être le prophète. Encore Jean 6, verset 14. Jean 6, verset 14. Ces gens ayant vu les miracles que Jésus avait faits disaient « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Donc cette prophétie que Moïse avait dite il y avait longtemps, dans Deutéronome 18, que Dieu leur allait envoyer un prophète, les gens l'attendaient et ils savaient que ce prophète-là, avec le titre défini, allait être le Messie. Et il disait de Jésus, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Dans Acte 3, nous n'avons pas le temps de lire le passage maintenant, dans Acte 3 et Acte 7, Pierre et Acte 7, Étienne, reprennent également ce passage dans Deutéronome 18, et rappelle aux Juifs que effectivement Jésus-Christ est devenu comme ce prophète dans la bouche duquel Dieu a mis toute sa parole. Nous ne devons pas aller jusqu'à l'animisme pour voir que l'homme essaye dans ses efforts religieux toujours et encore à créer d'autres chemins qui mènent vers Dieu ou d'autres chemins pour prendre contact avec le monde invisible. J'ai été vraiment scandalisé quand j'ai suivi de près la béatification de l'ancien pape Karol Wojtyla, nommé Jean-Paul II. Vous l'avez peut-être suivi aussi ces jours. Il a été béatifié. Ce n'est pas encore la sainteté, mais la béatification. Pourquoi ? Parce que deux nonnes, semble-t-il, l'ont prié directement, le pape défunt donc, et la réponse a été qu'une personne malade du Parkinson a été guérie. Alors on conclut qu'il a donc des pouvoirs de guérison. Cette personne morte, hein, qui est dans l'au-delà. Mais une chose que je ne comprends pas, vous qui êtes peut-être d'origine catholique, vous pourrez m'aider après la réunion. Est-ce qu'on pense que l'âme de Jean-Paul II a un pouvoir direct de guérison, donc on peut le prier directement, ou est-ce que ce n'est qu'un pouvoir intermédiaire dans le sens qu'on va l'envoyer demander à Jésus cette guérison? Vous allez me le dire, dans la théologie catholique, il y a certainement une distinction là. Est-ce qu'il n'est qu'intermédiaire ou est-ce qu'il est guérisseur direct? Toujours est-il qu'on cherche non pas la communion avec Dieu directe à travers Jésus-Christ, mais on cherche un chemin par quelqu'un d'autre, par un autre canal. Donc vous voyez que l'animisme, au fond, n'est pas très différent de tous les autres efforts religieux que l'homme invente, parce que il y a, je pense, dans le cœur de l'homme toujours et encore cette méfiance par rapport à Dieu, cette crainte de s'approcher personnellement et intimement de Dieu. On pense qu'il est trop grand, on pense qu'il est dans l'au-delà, on pense qu'il ne s'intéresse pas à nous. Et toutefois, tout le Nouveau Testament insiste toujours et encore sur le fait, à travers Jésus-Christ, Dieu est venu personnellement à nous et il veut une communion de la plus intensive entre sa créature déchue mais rachetée maintenant par son Fils, et il ne veut pas que nous passions par un quelconque autre chemin. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des discussions sur l'expression Allah dans l'islam, le nom de Dieu. Je lisais récemment un exposé d'un professeur évangélique qui voulait nous faire croire que Allah, le mot donc arabe pour Dieu, correspondait au mot hébreu pour Dieu qui est El ou Elohim. Et il disait Allah et El, ce sont des noms des langues sémitiques. Donc c'est le même Dieu, historiquement, ça se prouve aussi. Les musulmans pensent aussi au Créateur. Ils reconnaissent Noé, Moïse, etc. Mais ce n'est pas là la question. La question n'est pas une question grammaticale ou de langue ou de nom. La question est comment nous pouvons accéder à ce Dieu créateur. Comment? Et ce n'est que par Jésus-Christ. Donc, est-ce que nous répondons à quelqu'un qui nous dirait « Mais est-ce que nous ne pouvons pas prier ensemble puisque nous pensons au même Dieu ?» Les juifs, les musulmans, les chrétiens, la fameuse œcuménie abrahamique, n'est-ce pas? Est-ce que nous ne pouvons pas prier ensemble? Ah non, parce que Dieu ne nous écoutera pas. Ah non, pourquoi pas? Parce qu'il a décidé d'envoyer son Fils et nul ne vient au Père que par le Fils. Et nous ne pouvons nous approcher de Dieu que par le Fils. Et nous pouvons prier pour que le Père nous écoute que si nous le faisons par le Fils Jésus-Christ. C'est pourquoi ne nous lançons pas dans des discussions vaines et inutiles. Parlons de Jésus-Christ, de sa divinité, comme nous l'avons fait si bien ce matin à la première heure, et allons par lui directement au cœur de Dieu. Je termine par les deux, trois images. Voilà le résultat de l'animisme et de tout essai de l'homme qui essaye d'obtenir un quelconque avantage à travers le monde invisible, par un esprit, par un démon, par Satan lui-même. Ça finira toujours dans l'impureté, dans la ruine, dans une vie sans aucune perspective. Haïti en souffre à cause du vaudou qui est religion officielle et officiellement reconnue. Cette photo, je l'ai aussi faite en Haïti. Vous savez à qui? Excusez-moi cette horrible photo, mais elle m'a rappelé un message de grâce extraordinaire de l'Ancien Testament. Eh bien, ça m'a rappelé le chien mort qui avait le droit d'être assis à la table du roi. Regardez ce chien, est-ce que vous pouvez vous identifier avec lui? Ce chien, c'était toi et moi. Car Mephibosheth, le petit-fils de Saül, dit « Qui suis-je, moi, le chien mort, pour que j'aie le privilège de m'asseoir à la table du roi ?» Dans 2 Samuel 9, si vous lisez le chapitre, vous allez trouver quatre fois l'expression « à ma table » ou « la table du roi ». David gracie ce Mephibosheth qui dit « qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi ?» 2 Samuel 9, verset 8. Il se voyait comme un chien mort qui n'avait aucun mérite d'être admis à la communion royale, d'être admis à la table du roi. Et voilà, d'un côté, l'état de tout homme naturel, un état qu'on voit extérieurement, malheureusement, très souvent en Haïti. On voit des chiens, on ne sait pas trop s'ils sont vivants ou s'ils sont morts. Il a encore à moitié l'œil ouvert, je ne savais pas s'il était vivant ou mort. Mais en tout cas, état misérable, abandonné, c'est l'homme naturel, loin de Dieu. Mais dans sa grâce, Dieu nous a attirés à lui, dans le Fils Jésus-Christ. Et il veut la communion la plus intensive possible. Nous sommes enfants de Dieu. Voyez de quel amour le Père nous a fait grâce, nous a fait don de ce que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et c'est ça son but pour nous, communion directe par le Fils Jésus-Christ. Proclamez cette bonne nouvelle autant que vous pouvez et dites aux gens de ne pas choisir la voie de l'occultisme. Elle mène toujours à la ruine. Amen.